R. Philippe, métaphysique à Fribourg, le 4 janvier 1983, premier cours.
Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, et puis nous allons reprendre, c'est-à-dire moi ce sera jusqu'au Pâques, je présume, mais jusqu'au Pâques on essaiera de faire tout ce qu'il faut faire. Au dernier cours, à propos de l'analyse sur la quantité, vous avez souligné que l'on ne connaît pas directement la quantité. Tout comme les sens ne perçoivent pas directement les sensibles communs. Alors, faisons attention, hein. C'est justement ça, je suis d'accord là. On va voir. Aristote, dans le livre 2 du De Anima, affirme que les sensibles communs sont des déterminations senties par un mu. Puis il explicite en montrant que la grandeur est sentie par un mu. Bon, c'est très vrai. Sauf qu'on peut dire qu'il y a une connaissance des sensibles communs. Je dis bien des sensibles communs. Alors, est-ce que les sensibles communs sont la quantité? Vous voyez? C'est ça le point de vue très délicat. Les sensibles communs, c'est la grandeur, c'est le nombre. C'est la figura, on dit sensible. Alors, ils sont connus comme, mais pas directement, ils sont connus par les sensibles propres et ils sont connus par les divers sens. Alors, il faut comprendre que la quantité, c'est bien la grandeur, c'est bien le nombre. Alors, ils sont sentis. La grandeur est sentie. Je sens la grandeur. Je sens. Pas directement, mais toujours par les sensibles propres. Oui, il y a un contact, si vous voulez, direct. Donc, quand je dis ne sont pas perçus directement, c'est peut-être pas tout à fait juste. Ils sont quand même connus. Mais seule l'intelligence saisit ce qu'est la quantité. Vous voyez bien, le toti. N.A.I.N.A.I. de la quantité. Ce qu'est la quantité, seule l'intelligence connue. Je n'ai pas une connaissance sensible de la quantité en elle-même. J'ai une connaissance sensible de telle quantité. La grandeur, le nombre, mais pas de la quantité. Vous voyez, c'est l'intelligence seule qui saisit ce que c'est que le divisible. Alors, pourriez-vous expliciter ce qu'Aristote entend ici par mu? Peut-on expliciter le lien entre quantité et mu, mouvement, entre philosophie première et philosophie de la nature? Il affirme aussi que la figura est une certaine grandeur et donc est sentie par un mouvement. Que le repos est senti par une privation de mouvement, le nombre par la négation du contenu et par les sensibles propres, puisque chaque sens sent. Pouvez-vous nous dire pourquoi Aristote réduit les sensibles communs au mouvement, bien qu'il y ait une difficulté pour le nombre? Alors voyez, nous connaissons ces sensibles communs toujours par le mouvement. C'est dans le mouvement que nous les connaissons. Donc nous les connaissons à travers le point de vue de la grandeur, à travers le point de vue du continu. Et quand il s'agit du nombre, le nombre implique une certaine négation. Le nombre par la négation du continu et par les sensibles propres. Donc le nombre implique une négation puisque c'est la division du continu. Donc si c'est la division du continu, il implique toujours une négation. Je ne peux pas connaître directement le nombre. Je le connais toujours par la médiation de la négation, par la division. Alors, comprenons que quand il s'agit de ces sensibles communs, ils sont sensibles. S'ils sont sensibles, il y a donc un contact direct. Mais ils sont sensibles par la médiation des sensibles propres. Donc, ils ne sont pas sensibles immédiats. Ils sont sensibles par la médiation des sensibles propres. Il ne faudrait pas dire, je mets entre parenthèses les sensibles propres, et puis j'ai un contact direct avec les sensibles communs. Non. je saisis toujours par les sensibles propres. Mais par les sensibles propres, je peux saisir aussi ce que c'est que la quantité. Je ne saisis pas directement le point de vue du mouvement. Je saisis le mouvement à travers les différents sensibles propres. Oui. Donc, à travers les sensibles propres, je connais les sensibles communs. J'ai donc un contact direct avec les sensibles communs. Et ce qu'est la quantité, je la saisis par l'intelligence. Je ne sais pas si vous arrivez à bien saisir ces points de vue-là. Parce que c'est pas si commode que ça. Hein. Donc. Les sensibles propres. Mettez la lumière, mettez la chaleur, les sensibles communs, tout est là-dessus. Donc on dit sensible, et puis les sensibles perachidens qui ne sont pas, qui sont pas sensibles. Le sensible commun, c'est la grandeur, le continu, la grandeur. Le mouvement, le repos, la figure. Voilà les sensibles communs. Hein. Ils sont cinq. Donc, ça veut dire qu'ils sont saisis par différents sens. Et qu'ils ne sont pas saisis par un seul sens. Les sensibles propres sont saisis par un seul sens. Bon, ça, c'est la découverte d'Aristote. Découverte d'Aristote qui a été reprise par saint Thomas. Qui a été rejetée par Descartes. Toujours intéressant. Et reprise maintenant par certains marxistes. C'est intéressant de voir comment c'est l'histoire des sensibles propres. Alors, il faut comprendre que les sensibles propres, pour saint Thomas, à la suite d'Aristote, c'est ce qu'il y a de plus objectif. Et Descartes dit non, c'est ce qu'il y a de plus subjectif. Donc, supprimons-les et ne regardons comme objectif que ce qui est mesurable. Or, le mesurable, c'est justement les sensibles communs. Alors, on voit très bien, le mesurable, c'est la quantité. C'est sûr que la quantité conditionne les sensibles propres et que la quantité est présente dans ces sensibles communs. C'est le divisible. On est en phase de division. C'est pour ça qu'ils sont mesurables. Les différents divisibles, les différentes modalités du divisible. Bon, alors, la question qui se pose, comment je connais ces sensibles communs ? Je les connais toujours à travers les sensibles propres. Puisque les sensibles propres, c'est ce qui est donné le plus immédiatement. Je les connais donc à travers les sensibles propres. À travers les sensibles propres, j'atteins ces sensibles communs. Oui. Mais ils sont bien sensibles. S'ils sont sensibles, il y a donc une connaissance immédiate. J'avais été un peu trop vite quand j'avais dit qu'on ne les connaît pas directement. On les connaît directement, puisqu'ils y sont sensibles. Vous voyez ? Mais, de fait, c'est la différence du sensible perachidens, qui lui n'est pas connu directement. Et le sensible perachidens, c'est le sujet. C'est Pierre. C'est le todéti. Tandis que les sensibles communs sont connus directement. Ils sont connus directement, mais par l'intermédiaire des sensibles propres. Alors, ce qu'est la quantité, c'est l'intelligence qui les connaît. Bon, je crois que ça, c'est net. S'il y a encore des difficultés, il faut le dire. Deuxièmement, quand il s'agit du nombre, le nombre, il est évidemment... Le nombre, la grandeur continue, le nombre, j'ai oublié le nombre. Le nombre, à la différence, grandeur et continue, c'est la même chose. Hein. Le nombre, c'est la quantité discrète. Or, la quantité discrète vient de la quantité continue en impliquant une division. Donc, je connais le nombre en impliquant la division. Le nombre est connu par la négation du continu. Et par les sensibles propres. Donc le nombre implique en plus la division. La division, c'est l'intelligence. C'est évident que c'est l'intelligence qui divise, c'est pas le sensible. Donc vous voyez, là encore, le nombre est connu moins directement que la grandeur et le continu. Donc vous pourriez mettre du plus et du moins dans le caractère immédiat de la connaissance de la quantité. Ce qui n'est pas contradictoire et ce qui est intéressant à noter, parce que ça nous fait comprendre que seuls les sensibles propres sont vraiment immédiats. Donc il y avait quelque chose de juste quand je vous disais que la qualité seule était connue immédiatement. La quantité n'est pas connue immédiatement. Elle est connue par les sensibles propres. Et parce qu'elle est sensible par les propres, il y a du plus et du moins. Et celle qui est connue le moins, c'est le nombre. Parce qu'elle implique la négation. Ça va comme ça? S'il y a des questions, il faut les poser tout de suite. Parce que maintenant, nous allons passer à autre chose. C'est difficile. Vous n'avez qu'à essayer d'expérimenter vous-même. Bon, les sensibles propres, nous les connaissons tous. Hein. Soyez attentifs à votre sensation. Faites un peu de vitose et vous allez comprendre que les sensibles propres sont connus immédiatement. Quant aux sensibles communs, vous voyez toujours que c'est à travers les sensibles propres. C'est pas possible autrement. Donc il y a une certaine médiation. Et cependant, ils restent sensibles. Mais voyez, ce qui montre bien qu'ils sont sensibles d'une manière très particulière, c'est qu'il y a différents sens qui peuvent les saisir. Alors là, on est très proche du sens commun. Puisque le sens commun, c'est justement ce qui va saisir le support et l'harmonie des différents sensibles. Donc on est très proche du sensible, du sens commun qui saisit le support. Or, d'une certaine manière, les sensibles communs sont les supports des sensibles propres. En tant que support des sensibles propres, ils sont connus par l'intermédiaire des sensibles propres. Donc, pas immédiatement. D'autre part, ils restent sensibles. Mais ils restent sensibles comme des sensibles communs. Oui, alors, on tourne pour moi. Et je crois que c'est ça qu'il faut saisir. C'est qu'au fond, là, nous voyons très bien que la lucidité de nos sens, de nos sensations, c'est pas de lucidité absolue. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus immédiat? C'est le sensible propre. Et après, c'est le mesurable. On comprend très bien la tactique de Descartes. Les sensibles propres, ah oui, ça c'est subjectif, c'est évident. Ah, les sensibles communs, c'est mesurable. Et c'est très vrai que les sensibles communs ne sont connus parfaitement que quand ils sont mesurés. Autrement, ils ne sont pas immédiatement connus. Puisqu'ils sont connus par l'intermédiaire des sensibles propres. Alors là, vous voyez, vous commencez à toucher là, et c'est ça qui est intéressant, tout ce problème de la quantité, qui est un problème essentiellement de médiation. C'est le domaine du conditionnement. C'est le domaine de ce qui est intermédiaire. C'est jamais le domaine de ce qui est donné immédiatement et directement. Et c'est pour ça que la quantité est si difficile à connaître. Oui, alors là, vous voyez bien. Je peux défendre la thèse que ce n'est pas connu immédiatement. Je peux défendre la thèse qu'ils sont sensibles, donc ils restent directement dans l'expérience, et c'est très vrai. Je les atteins par l'expérience. Mais jamais directement. Mais je les atteins dans l'expérience. L'expérience implique les sensibles communs, comme le conditionnement des sensibles propres. Et ces sensibles communs, conditionnement des sensibles propres, ne sont connus parfaitement que quand ils sont mesurés, parce qu'ils sont immesurables. Bon, je crois que c'est suffisant, pas la peine d'insister trop. N'est-ce pas? Réfléchissez, parce que c'est intéressant à réfléchir, à votre propre expérience.
Pourquoi ils sont connus par le mouvement? Pourquoi ils sont réduits au mouvement?
Parce que le mouvement est parmi les sensibles communs, le sensible le plus proche des sensibles propres. C'est à cause de ça. Il y a un ordre. Il y a un ordre, c'est ça qui est très curieux. C'est pour ça que je dis, il y a du plus et du moins. Et c'est là qu'on voit très bien que ce n'est pas immédiat. Dans l'immédiat, il n'y a pas de plus et de moins. Parce que c'est l'indivisible. Dès qu'il y a du plus et du moins, il y a du mesurable. Alors vous pouvez mettre plus, alors vous pouvez très bien découvrir que le mouvement est en effet ce qu'il y a de plus immédiat.
par exemple, connaître l'appui du mouvement par le mouvement.
Pourquoi le mouvement est-il le plus? Parce que le mouvement est acte de ce qui est en puissance. Oui. Alors là, vous donnez la raison, parce que c'est l'acte de ce qui est en mouvement. Donc, c'est le plus immédiatement connaissable, intelligible. Oui. Et les autres sont divisibles. Oui. C'est en ce sens-là. Là, vous pouvez comprendre qu'il y a quand même quelque chose par le point de vue du mouvement qui est plus immédiat. Réfléchissez, ce serait très intéressant de creuser ça au point de vue critique, réfléchissez au statut épistémologique de la quantité. Le statut épistémologique. Comment notre intelligence atteint-elle la quantité ? Comment nos expériences atteignent la quantité ? La quantité est présente dans nos expériences et elle est une matière au divisible. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme question ? Il n'y a pas de question ? Très bien. Bon, alors nous allons maintenant tout de suite passer à l'autre partie. Nous avions vu au point de départ que la philosophie première. Reprenons le point de vue. La philosophie première, elle naît à partir de ce fait que nous constatons que le jugement d'existence est présent à toutes nos expériences. Je mets en pleine lumière ce jugement d'existence, ceci est « je suis ». Je mets en pleine lumière ce jugement d'existence et mettant en pleine lumière ce jugement d'existence, dévoilant ce jugement d'existence, présent dans toutes les expériences, mais implicitement présent dans toutes les expériences, je le dévoile et je l'exprime. Et dès que j'exprime ce jugement d'existence, j'ai l'intuition de l'être, à la manière de Maritain. C'est-à-dire, je comprends que ce jugement d'existence implique une très grande diversité du ceci, du je, et une unité de est. D'où vient cette unité qui vient de est et de la diversité des jugements? C'est là où il y a intuition de l'être, parce que je saisis que l'être est capable d'unifier une diversité très grande. Cette intuition de l'être, vous voyez, comprenons bien, l'intuition de l'être ne porte pas sur l'être, mais porte sur le rapport d'unification de l'être par rapport à la diversité. Et donc, à ce point de vue-là, l'intuition de l'être présuppose le jugement d'existence, l'intuition de l'être conduit à l'admiration, et une fois qu'il y a l'admiration, il y a l'interrogation, qu'est-ce l'être ? Et c'est en poursuivant cette interrogation « qu'est-ce l'être ?» que je découvre l'ousia comme étant la source de toutes les déterminations. Maintenant, je me pose la question, toujours en face de cette admiration qui naît de l'intuition de l'être. C'est pour réhabiliter l'intuition de l'être de Maritain que je fais ça. C'est intéressant, très bien, c'est intéressant de voir qu'en effet, le jugement d'existence est source, pour moi, d'une certaine inquiétude et d'une certaine intuition. L'inquiétude, c'est que je vois que ce jugement d'existence est radical à toutes les réalités que j'expérimente, et que ce jugement d'existence a quelque chose de très particulier. Alors, il y a cette intuition de l'être, d'où l'admiration, d'où l'interrogation. Je peux me poser maintenant en quoi est l'être. Grave question. En quoi est l'être? Vous voyez bien, la métaphysique présuppose, il ne faut pas l'oublier, les grandes interrogations de l'intelligence. La philosophie première vient normalement après la philosophie de la matière, après la philosophie de la nature. Et dans Philosophie de la nature, j'ai vu qu'il y avait quelques grandes expériences auxquelles on venait tout le temps. C'est-à-dire, je veux dire, quelques grandes interrogations auxquelles on venait tout le temps. Parce que à ces interrogations correspond la découverte des causes. Causes selon la forme. Ici, je dirais causes selon la matière. Quand vous interrogez en quoi il est, vous cherchez la matière. La matière de l'être. Quand vous dites en quoi est cette table, vous cherchez la matière de cette table. Quand je pose la question en quoi est ce livre, je cherche la matière de ce livre. Quand je vois une statue et que je dis en quoi est cette statue, je cherche la matière de la statue. Et ainsi de suite. Quand je donne la main, puis que j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait une main de chair et d'os, je dis en quoi est cette main ? N'est-ce pas ? C'est on voit tout de suite. Alors, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce en quoi ? Eh bien, je dis que la question « en quoi est l'être ?» est une question qui n'a pas de sens. Ça, très intéressant à voir. C'est même capital à voir. En quoi est l'être ? Je suis obligé de la poser. Pourquoi ? Parce que deux ont répondu à cette question-là. Il y a premièrement Averroès. Averroès a répondu comme commentateur d'Aristote, en quoi est l'être ? La matière. Et donc il a posé la matière comme un principe propre, constitutif de l'être. Pas Avicenne, Averroès a dit ça. Et l'autre qui a répondu de la même manière, c'est Lénine. C'est très curieux. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a deux significatifs. Parce que peut-être que maintenant, il y en a d'autres. Les successeurs ont peut-être répondu que la matière est principe propre de l'être. Vous comprenez toute la conséquence. Si la matière est principe propre de l'être, Lénine le dit textuellement, si la matière est principe propre de l'être, tout être en tant qu'être est matériel. Il ne peut pas y avoir d'être spirituel. Si c'est un principe propre de l'être, ou bien alors vous seriez obligé de dire, comme le dernier livre qui vient de paraître, Dieu sans l'être. Parce que l'être est impliqué, c'est comme ça que vous devrez répondre à ce livre. Vous êtes dans la ligne de Lénine et d'Averroès. Vous n'avez pas compris qu'il y a autre philosophe que Lénine et Averroès. Si en effet l'être implique la matière, je suis tout à fait d'accord. Dieu qui est esprit est sans être. Mais toute la question est de savoir si l'interrogation en quoi est l'être a une signification. Là, c'est une très très belle question, hein. Il faut se la poser. C'est une question qui est très très importante. Alors, pour que nous comprenions mieux, en quoi est le devenir ? En quoi est le mouvement ? En quoi est ce qui est nu ? Quand je me pose la question « En quoi ce qui est mu ?» Je dis « Ce qui est mu implique nécessairement la matière. » Et radicalement la matière première. La matière première, c'est la matière ultime. En quoi ce qui est mu ? Pourquoi ? Je dis que « En quoi ce qui est mu implique la matière ?» Parce que ce qui est mu implique nécessairement une potentialité. Un être en puissance. Ce qui est mu implique un être en puissance. Il implique un être en acte, mais il implique un être en puissance, puisque s'il n'était pas en puissance et qu'il était totalement en acte, il ne serait plus mu. Ce qui est mu, c'est celui qui change. Mais celui qui est en acte, qui change. Oui. Donc c'est celui qui indique le divisible. C'est celui qui indique le sensible comme et la quantité. Parce que de fait, il implique la potentialité. Donc, je peux poser que ce qui est mu, en quoi ce qui est mu, la matière première, la matière. En quoi ce qui est mu? Vous voyez, je ne dis pas n'importe quelle réalité qui est mue, mais vous dites qu'il y a telle matière corruptible, telle matière, et ainsi de suite. Quand je me pose la question, en quoi le vivant? Je précise, de vie biologique. Il implique encore. Donc, radicalement la matière. Quand je dépasse le devenir et que je me pose en quoi est l'être, je dis que cette question n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que dire en quoi implique nécessairement de se poser la question de ce qui est sujet. Ce qui est fondement. Or, l'être comme tel, nous venons de le dire, implique l'ousia. Le principe propre de l'être, c'est d'être source de toute détermination. Si le principe propre de l'être, c'est d'être source de toute détermination, il ne peut pas y avoir de fondement de l'être. Et ça, c'est très grave, parce que quand on parle d'ontologie fondamentale, c'est donc pas tout à fait juste. Avec tout le respect qu'on doit avec Heidegger. Parce qu'il n'y a pas de fondement de l'être. L'être est. C'est tout. Parménide avait très bien saisi ça. L'être est. Donc il n'y a pas de fondement. Il faudrait diviser l'être pour dire qu'il y a un fondement. Il faudrait que l'être ait besoin d'autre chose que l'être pour être supporté par cette autre chose. Donc l'être est quelque chose de second. Le mouvement, il est relatif à autre chose. Ce qui est mu. Ce qui est mu. Tandis que l'être comme tel, mais non, il est relatif à rien. C'est pour ça que le principe propre de l'être, c'est l'illusion. Source de toute détermination. C'est impensable l'interrogation en quoi est l'être. Ça, il faut arriver à le saisir. Hein. Je ne peux pas vous donner l'intelligence de la chose. Je peux simplement vous montrer que c'est insaisissable. Ça n'a pas de signification. Se poser la question en quoi est l'être, c'est de vouloir chercher le fondement de l'être et que l'être comme tel, l'être en tant qu'être, n'a pas de fondement. Il ne faut pas en avoir. Alors, une fois que vous avez saisi ça, vous ne pouvez plus être heideggerien. Impossible. C'est quand même très curieux. Ça montre que il y a un manque de sens de l'être pour parler de l'ontologie fondamentale. Lui qui veut redonner à l'être toute sa signification et redécouvrir l'être comme vraiment quelque chose de complètement inédit, parle d'ontologie fondamentale. Alors que si je découvre l'être justement dans le sens de Parménide, il est. S'il est, il ne peut pas avoir de fondement. Il est indivisible. En tant qu'il est. Il est un. Ce que Parménide est très bien dit. Il est un, donc il est indivisible. Pour avoir un fondement, il faut nécessairement appliquer une certaine divisibilité. Pour avoir une matière, il faut nécessairement avoir une certaine divisibilité. Il faut nécessairement avoir une certaine potentialité. Donc, l'interrogation en quoi est l'être est une interrogation qui n'a pas de sens.
Donc je
ne
peux pas répondre.
Ce serait la méconnaissance de l'être de répondre à l'interrogation en premier. Oui. Et c'est pour ça que j'ai d'abord posé qu'est-ce que c'est que l'être, hein. Faut pas l'oublier. Si je posais la question avant, je dirais, je peux dire le devenir. Alors est-ce que l'être c'est le devenir? Est-ce que l'être c'est le vivant? Si j'identifie l'être et le devenir, identifie l'être et le vivant, ah, je réponds. Et donc quand Averroès répond que le principe, que la matière est principe propre de l'être, ou que Lénine répond que la matière est principe propre de l'être, ça prouve que dans leur tête, ils y ont identifié être et devenir. Ou être et mouvement. Ou être et vivant. Ils ont identifié le devenir. S'ils n'avaient pas identifié, s'ils avaient distingué être et devenir, ils ne pourraient plus affirmer que le en quoi est l'être a une signification et que c'est la matière. Donc, nous, si nous avons saisi que l'être est premièrement l'ousia et que l'ousia est source de toutes les déterminations, que nous saisissons là le principe propre de l'être dans son caractère le plus indivisible, nous sommes obligés de dire qu'il n'y a pas d'interrogation, du moins l'interrogation en quoi est l'être n'a pas de signification. Donc, c'est très différent. C'est assez extraordinaire, ça. Alors, l'objection, tout de suite. Alors, la matière est du non-être. Est-ce que vous dites que la matière n'intervient pas dans l'être? Oui, bien, ça, c'est la conclusion immédiate. Hein. Donc, vous revenez à la position de Platon. La matière est du non-être. Elle dit pas du tout. La matière n'est pas du non-être, mais la matière n'est pas première dans l'ordre de l'être. Et nous avons vu que la quantité est une des modalités de l'être. Or, la quantité présuppose la matière. Donc, la matière n'est pas du non-être, mais elle n'est pas premièrement l'être. Nous sommes dans l'analyse de ce qui est en tant qu'être. L'analyse recherche ce qui est premier. Et elle précise ce qui est premier de ce qui est second. Or, la matière, comme telle, n'apparaît au niveau catégorial que par la quantité. Que par la passion, le fait de pâtir. La matière n'apparaît jamais comme ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Elle est toujours quelque chose de second. Autre interrogation. D'où l'être? D'où vient l'être? Qui est l'interrogation qui conduit à la cause efficiente. Alors là, c'est encore un peu plus subtil. La matière, c'est gros. C'est gros. Ça prouve que l'intelligence de Lénine, qui est géniale sous certains aspects, n'est pas métaphysique pour un pouce. Autrement, il n'aurait pas dit ça. Ce qui s'approuve que Averroès, qui est génial sous certains aspects, n'a pas compris ce que c'était que l'être. Autrement, il n'a pas été suffisamment loin dans la distinction de l'être et du devenir. Ça, on peut dire ça tout de suite. Exactement comme celui qui dit Dieu sans l'être. Ça prouve qu'il est dans la ligne de Lénine et d'Averroès. Mais notre nouveau Lénine, notre nouveau Averroès, qui veut être chrétien, alors il dit Dieu sans l'être. C'est une manière très élégante de répondre. Alors, on peut se poser la question maintenant, d'où vient l'être? D'où l'être? D'où vient l'être? Cause efficiente. Bien, je réponds ici encore de la même façon. Cette interrogation n'a pas de sens. Cette interrogation n'a pas de sens. Vous voyez, comme la métaphysique, c'est simple. On répond toujours par les négations. C'est très vite fait. C'est une rapidité folle. Ça, c'était un peu difficile, mais c'était très important de découvrir les idées. Une fois qu'on a découvert ça, ça dégringole le point de vue de la cause matérielle. La cause efficiente, elle aussi dégringole. La recherche de la cause efficiente. Vous allez me dire, ah oui, ça c'est très grave ce que vous dites. Alors à partir de là, vous niez la possibilité de la création. La création, c'est bien la cause efficiente de ce qui est. Dieu est cause efficiente, ça te le dit textuellement. Dieu est cause efficiente de ce qui est. Alors vous voyez, ça c'est très très intéressant, parce que ça fait comprendre que la recherche de la création et l'interrogation d'où est l'être, c'est deux choses différentes. Et totalement différentes. Et qui sont très souvent confondues. Et parce que c'est très souvent confondu, on ne sait plus très bien ce qu'on dit. Alors, la recherche de la création, c'est quoi? C'est ayant découvert l'existence d'un être premier, que nous appelons Dieu selon les traditions religieuses. Ayant découvert l'existence d'un être premier, nous posons la question, quel rapport existe-t-il entre cet être premier et moi? La politesse métaphysique. Moi. Ou toi, si tu es mieux. Et je pose le lien qui existe entre l'être premier et moi et toi. Et c'est quand je pose cette relation entre les deux que je me trouve en face du problème de la création. Le problème de la création n'est donc pas un problème d'analyse, c'est un problème de relation. J'espère que vous voyez ça. Ayant découvert l'existence de l'être premier, nous ne sommes pas encore là, hein. Ayant découvert l'existence de l'être premier, j'essaie de comprendre quelle relation cet être premier sous-tend avec moi, toi, toutes les réalités. Et je dis qu'à ce moment-là, il y a une dépendance totale de moi dans mon existence par rapport à l'être premier. C'est donc un problème qui se situe au niveau de l'exister. Ce n'est pas le problème de l'existentiel, mais de l'existentiel. En réalité, c'est ici où se situe le problème de l'existentiel. Vous savez, il distingue l'existentiel et l'existentiel. Hein. Il faut surtout connaître ces distinctions-là. Si vous ne connaissez pas ces distinctions-là, vous êtes un imbécile. Il faut les connaître, ces distinctions-là. Entre l'existentiel et l'existentiel. Alors, c'est Heidegger qui fait ces distinctions-là, donc il faut les reconnaître. Alors, existentiel, c'est quoi? C'est tout simplement les réalités existentielles. Vous êtes des êtres existentiels et je le suis aussi. Et nous sommes là dans le contour de l'eau sans problème existentiel. Un coup est un problème existentiel. C'est bien évident. Ce n'est pas un problème abstrait. C'est un problème existentiel. Nous sommes dans tel lieu, dans telle circonstance, telle heure et dans tel jour de l'année. Ce sera très bien. Problème existentiel. Existentiel, c'est... À l'intérieur de l'analyse de l'être existentiel, on redécouvre des données qui sont transcendantes aux données existentielles, qui restent toujours contagieuses, hein, puisque l'existentiel est militant. L'être existentiel est au niveau de l'être. Et l'existentiel de l'individu est au niveau de l'être, tandis que l'existentiel est au niveau de l'état. L'étang est existentiel. Tous les étangs sont existentiels. Tandis que l'existentiel, c'est quelque chose qui est au niveau de l'être, dans l'ordre d'une certaine dimension de l'être. Alors, on parle de l'existentiel. Là, vous voyez, puisque nous parlons de l'analyse des principes. Alors, on ne dit pas existentiel. On dit les principes. Tandis que quand je suis ici, je suis au niveau de l'exister. Mais je suis au niveau de l'exister, non pas simplement de la description. Ça, c'est existentiel. La description, c'est au niveau de l'existentiel. Mais nous sommes au niveau d'un jugement de sagesse. Dans la lumière de l'être premier, je regarde le moi qui existe. je regarde le fait qui existe. Alors c'est pour ça que je pourrais dire que nous sommes en face d'un jugement de sagesse qui implique une dimension nouvelle, qui est une dimension existentielle. Parce que ça implique une transcendance, la transcendance du jugement à partir de l'être premier. Alors on pourrait dire ça, simplement pour garder une distinction. Parce que c'est vrai que je suis au niveau de l'exister, mais il y a deux niveaux de l'exister. Il y a le niveau de l'exister du tôt-oti, le fait d'exister, et le fait et le niveau de l'exister vu dans sa dépendance à l'égard de l'être premier, c'est-à-dire laisser participer, c'est l'existentiel, parce que c'est laisser vu dans la lumière de l'être premier. Alors on pourrait dire ça, on pourrait dire l'existentiel de ce point de vue-là, parce que c'est laisser participer, tandis qu'ici c'est laisser tout court. C'est laissé tel que je le constate, tel que je l'expérimente. Bon. Alors, vous voyez donc qu'il y a une différence entre le problème que nous nous posons ici, d'où l'être, et le problème de la création. Le problème de la création est un problème qui vient après la découverte de l'être premier, donc qui vient après l'analyse de l'être, tandis qu'ici je suis au niveau de l'analyse de l'être. L'analyse de l'être, c'est la recherche des principes propres de l'être. Eh bien, je dis qu'il n'y a pas de principe propre, un principe propre au niveau de la coefficience. L'être comme tel, n'a pas de coefficience. Mais l'être peut dépend radicalement d'une cause première qui n'est plus la cause propre de l'être. L'être premier. Dieu n'est jamais cause propre de l'être. Autrement, il ne serait plus Dieu. Dieu est cause première, Dieu est cause ultime de l'être, de ce qui est. Mais pas cause propre. Distinguons bien les deux. La cause propre, c'est ce qui constitue la réalité. Dieu ne constitue pas l'être. Cherchez bien dans l'être, vous ne trouverez pas Dieu. Dieu ne constitue pas l'être, mais Dieu est source radicale et ultime de l'être, de ce qui est. Il faut distinguer les deux. C'est très très important de distinguer le problème de la création et le problème de cette recherche d'où est l'être, d'où vient l'être. Est-ce que vous arrivez à bien saisir les deux? C'est important parce que c'est ce manque de distinction, vous voyez, que nous retrouvons dans la philosophie de l'ontologisme. Dans l'ontologisme, Malebranche comme exemple, ou même Descartes, c'est dans l'ontologisme la distinction entre la cause propre, le principe propre de l'être et la cause ultime de l'être ne sont pas faites. Alors on ne distingue pas la recherche d'où l'être et la création. Problème de la création. Donc il y a là un problème très très important à bien distinguer. Eh bien quand je pose la question d'où l'être, je dis cette interrogation n'a pas de sens. Pourquoi? Je renvoie par nous. L'être en tant qu'il est ne peut pas devenir. L'être en tant qu'il est n'a ni génération ni corruption. Il est. En tant qu'il est. Pourquoi? Il est indivisible. Donc il n'a pas de génération, il n'a pas de génésis. Il n'a pas d'engendrement, il n'a pas de corruption. Il est. En tant qu'il est, il faut bien le saisir, dans toute sa force. En tant qu'il est, il est absolument indivisible. Je ne peux pas trouver de cause efficiente de ce qui est en tant qu'il est. Mais je peux poser le problème des liens de dépendance ou des liens d'autonomie qui existent entre l'être premier et les autres réalités. C'est tout à fait autre chose, ce n'est plus le problème de l'analyse de ce qui est, mais c'est le problème tout simplement de la relation des réalités que j'expérimente avec la réalité première que j'ai posée. Donc, distinguons bien les deux problèmes. Hein? Parce que si on ne distingue pas les deux problèmes, ça fait de la confusion. Alors, nous avons donc pas de problème de la cause efficiente de l'être. Alors, troisième problème, c'est de dire merveilleux, oui, ça va très vite. On arrive tout de suite, en vue de quoi même. Pause finale. En vue de quoi l'être ? Là, il y a un problème. Il y a une interrogation qui a un sens. En vue de quoi l'être ? Quelle est la finalité de l'être ? Vous allez dire la finalité de l'être, c'est l'être. Tout à fait d'accord. La finalité de l'être, c'est l'être. L'être, il est. La finalité de l'être, c'est l'être. Mais précisons, la finalité de l'être, c'est l'être en acte. Comme le principe propre de l'être, du côté de sa forme, c'est l'ousia. C'est l'être en acte. Pourquoi ? Ah, parce que je vois très bien qu'il y a des réalités qui... C'est l'heure ? Ah oui, il faut taper. Quand on est dans l'être en acte, on est en dehors du pays. Alors, si vous avez des questions là-dessus, on les posera tout à l'heure. Hein. Réfléchissez là-dessus, parce que ça vaut la peine. C'est une des questions très importantes au point de vue métaphysique. Ça. Et il faut en avoir le cœur net. Et l'intelligence encore plus.